Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Charline, Alex, est-ce que vous m'entendez?
Hey, Christine,
oui, salut,
bah
oui, on n'est
ouais.
pas encore dans l'au-delà, on est là. Oh
ouais, ouais. On entre dans une bonne période pour moi, la magie de Noël et de l'hiver.
Pourquoi tu dis ça, Christine?
Non, enfin, vous prenez des vacances, hein, il faut vous reposer, il faut bien préparer la vie d'après.
Oui, enfin, Christine, pour l'instant, on a la patate, hein, tout va bien.
Alors, tu sais, Christine, qu'on a une très grande confiance en toi.
Oui, on n'est pas loin de penser que t'es la meilleure chroniqueuse de l'émission.
Mais non.
Si, et c'est pour ça qu'on a décidé de te mettre dans les florilèges.
Oh, ouais. Bah, ça me fait plaisir, surtout pour mes morts, hein, ils s'ennuient un peu, vous savez.
Ah bon?
Oui, ils sont malheureux comme les pierres.
Ton bal, j'imagine.
Pardon. Alors, on te propose de réécouter l'émission avec Dany et avec Laurent Ruquier aussi.
Mais ils sont pas...
Non, ils vont très bien, mais on avait adoré ta chronique avec Jacques Martin.
Ah oui, on avait chanté, c'est sympa de la déterrer cette chronique.
Voilà, pas de rien, ça fait plaisir.
Ouais. Et vous voulez qu'on appelle le Père Noël?
Non, mais ça va aller, Christine.
Ouais. Mais si, on pourrait chanter avec lui. Petit papa...
Alors, en fait, Noël est techniquement déjà passé, la Christine.
Et Tino aussi se repose.
Voilà. Là, c'est les fêtes, les autres.
On va faire une veillée?
Presque, c'est-à-dire qu'on va se faire plaisir puis rigoler en écoutant Alex chanter Michel Thor.
Vous commencez à rigoler, je m'étais appliqué.
Ouais, en réveiller les morts. Ah.
Voilà. Bah, merci Christine et puis passe de bonnes fêtes.
Enfin, moi, ma fête préférée, c'est la Toussaint.
Tu m'étonnes.
Bonjour la France Inter, nous sommes le vendredi 28 décembre 2018, ça en fait des 8. Nous arrivons au terme d'une année qui a vu disparaître Charles Aznavour, Bernardo Bertolucci.
Comment on dit Bertolucci?
Le plan banlieue de Jean-Louis Borloo, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, enfin du moins son projet. Heureusement la vie continue et dans l'immédiat, elle continue avec deux invités. De sa voix profonde, Dany nous parlera de la démesure des défilés de mode où cette année, les mannequins ont même marché sur l'eau grâce à un podium installé sur la Seine, le fleuve. Ouais. On évoquera aussi avec elle les 10 ans de la disparition d'Alain Bachung. À la mi-temps, c'est Laurent Ruquier qui viendra animer l'Open Space et avec lui, on s'est demandé ceci. Avec les heures qu'on passe à commenter les petites phrases de Macron, est-ce qu'on n'aurait pas eu le temps de relire tout Balzac? Et d'ailleurs, tiens, comment amener les jeunes vers l'art et la culture quand les parents n'ont pas la thune pour payer des cours particuliers de dessin ou une guitare? On lui a aussi soumis une nouvelle version de son émission « On n'est pas couché ». Alex, du côté de notre belle équipe de chroniqueurs, qui vient en renforcer aujourd'hui?
Du côté de notre toute belle équipe de chroniqueurs, Juliette Arnaud nous parlera d'un livre de Tim Willox. Christine Gonzalez, on le sait, va parler avec Jacques Martin et on va chanter. Et puis Constance va pas parler de Lolo, mais uniquement de l'eau. Enfin, c'est le qu'on boit, de l'eau. Mm-hmm. Quoi. Et on terminera, comme tous les jours, avec du Frédéric Fromet, cette chanson qu'il avait interprétée lors de la fête de l'Huma. Autant vous dire que c'était la folie.
Allez, venez, on rejoint Dany.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Dany.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez reparler avec votre vraie voix?
Non, mais c'est la mienne normale. Évidemment, quand on a 20 ans ou 17 ans, il n'y a pas encore les cigarettes et puis tout le dossier de la vie qui arrive. Donc, vous allez voir, à mon âge, vous parlerez comme moi.
S'il y arrive.
Ouais,
cette vie résumée dans un livre qui est paru il y a 2 ans, qui s'appelle La nuit ne dure pas, paru chez Flammarion, Dany. Et vous en faites des lectures musicales avec Emmanuel Seigné. Il y a bien sûr l'enfance à Perpignan, l'arrivée à Paris, les séances photos comme mannequin, le coup de foudre avec celui qui devient votre mari, la chanson, la revue, la nuit, la dope, la passion pour les roses.
Mes enfants.
Et vos enfants, s'il bien vous plaît. Sûr, et bien sûr, évidemment. Quel passage de votre vie vous avez choisi de lire? Les extraits.
On a fait tout un peu en relation avec la musique. Donc Emmanuel, elle commence et elle raconte les auteurs-compositeurs qui m'ont offert toutes ces chansons que j'adore. Après, on chante un ou deux morceaux ensemble. Après, elle relie un petit morceau sur les roses. Et après, elle raconte aussi l'histoire de l'Eurovision. Et puis, on chante ensemble encore. C'est plutôt très festif et très inhabituel.
Pour faire vite sur l'Eurovision, par deux fois, vous n'y êtes pas allé.
C'est extraordinaire. Mais moi, j'étais très contente, hein, je vais vous dire, parce que de défendre une chanson en 3 minutes avec cette pression, moi, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mais déjà, il y a la pression quand même quand on prépare une Eurovision.
Un concours, ce sera plus simple.
Il y a l'ellipse du mot concours, on va dire.
Et je trouvais, moi, j'étais très confort, hein, de ne pas le faire, parce qu'au bénéfice du doute, La première fois, en tout cas, j'ai été invitée partout en Europe, on a chanté des trucs. Et après, l'histoire de la chanson de Serge, que les gens de l'Eurovision n'ont pas voulu parce qu'elle était trop... ça parlait de flingues, ça parlait de cœur exsangue, c'était pas fait pour l'Eurovision, enfin bon.
Qui sera né dans le tube.
Il n'était pas prêt, il n'était pas prêt.
Oui, c'est ça.
Il préférait poupée de tir, poupée de son avant, etc.
Ah non, mais ça, c'était bien aussi. Bien. Mais bon, après les chansons qu'il proposait, je sais pas, je les ai pas senties. Ouais.
votre livre, tiens, il s'ouvre sur une date funeste, c'est la mort de votre attaché de presse et grand ami Tony Krantz.
Oui, oui.
Vous avez ouvert dessus, et donc quand on lit tout le livre, on sent qu'à un moment où vous la rencontrez, elle est en filigrane là, qui vous soutient. Est-ce que vous pouvez raconter l'importance qu'elle a dans votre vie ?
Alors cette femme, on s'est rencontrée quand moi j'ai fait mon premier disque chez EMI. Elle est arrivée aussi pour ce nouveau métier qui était les relations publiques à ce moment-là. Et puis... ça a été, quand je vous dis un coup de foudre artistique, c'est une femme qui a accompagné beaucoup d'artistes, hein, Barbara, Coluche, Muriel, et d'autres, comment il s'appelle, James Brown, enfin tout le monde, Tamla Motan, elle a fait quand même tout ça et tout. Et c'est quelqu'un, qui donnait confiance. Donc quand elle me disait quelque chose, le regard qu'elle avait sur moi, en tout cas, et sur les autres artistes aussi, c'était un privilège. Et voilà, elle m'a accompagnée toute ma vie et je la regrette beaucoup. Mais elle me tient la main là-haut, je
oui,
pense.
Ouais. On le comprend dans le livre. Votre roman, il est aussi dédié à tous ceux qui vous ont écrit des chansons. Ils sont énumérés au tout début du livre. Il y a plus d'une cinquantaine de noms. J'ai pas vu une seule femme. Bah, il y a que des mecs qui vous ont écrit des chansons.
Bah oui, parce qu'encore les femmes, c'est compliqué de faire ce métier-là. Mais on y arrive, d'auteur, on est en train d'y arriver, d'être auteur. Là, avec Erenan, avec Emmanuel, justement, on chante une chanson à elle qui s'appelle Dingue, Dingue, Dingue.
Ouais.
Et voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivaient. Et puis, j'ai pas les mecs, je devais les faire rêver peut-être.
Ouais, si vous n'osez pas le dire, vous avez inspiré.
Ils essayent, ils essayent de vous pécho à vous écrire dans des
C'est tous des amis, hein, franchement.
Oui, on dit ça dans le showbiz.
Non, mais c'est vrai, non, mais bon. La après, nuit je peux ne faire des parenthèses aussi, non.
D'ailleurs, Alex, vous avez écrit une petite chanson.
C'est vrai.
Étoile et revers, c'est donc Dany qui est avec nous. C'est lecture musicale avec Emmanuel Seignier à Paris, par exemple. Étoile et revers, une chanson que Dany reprend avec Emmanuel Seigné lors de ses lectures musicales. Et vous jouerez seul aussi les 26 et 27 janvier à Toulouse. Et on vient d'écouter un extrait de La nuit ne dure pas, l'album. Et tiens, on va parler un peu mode, je sais que vous aimez ça. Donc les défilés de la Fashion Week parisienne cherchent le grandiose et le délirant. Vous allez nous confirmer ou pas, Dany. Un podium a en tout cas été installé sur la Seine, le fleuve. Podium Seine, pardon, mais oui. Que ce soit clair, qui a interrompu le trafic fluvial pour l'occasion. Certaines stations de métro ont même été fermées ce week-end et quelques rues ont été fermées à la circulation. Tout ça pour que L'Oréal puisse faire sa pub. Alors même dans les défilés de mode enfant, vous savez qu'il n'y a plus de limite, écoutez.
Donc on va remballer les chamallows, on va remballer la petite partie miteuse de Laser Game dans le 14e arrondissement de mes couilles et on va m'organiser une grosse fête. Une putain de vraie grosse fête, les gars! Ce que je veux, c'est un château avec un parc. Je veux des fontaines de limonade de toutes les couleurs. Je veux des montagnes de bonbons. Je veux des gamins. Je veux de la musique. Et je veux que tout ça, ça soit chouette. Et j'ai fait une liste d'invités.
Pardon, Hicham, je suis pas sûre que Léa Seydoux soit très tentée par une partie de Laser Game.
Qu'est-ce que t'en sais, Hervé? Qu'est-ce que t'en sais? Vous démerdez pour me ramener au moins Julien Doré et Norman.
C'est un extrait de la série 10% avec ici l'acteur Assaad Bouab. Alors, vous avez assisté au défilé Chanel, c'est ça? Nous, on en a une vision grandiloquente avec des décors de maboule.
Non, mais alors, le génie dans cette histoire, c'est quand même Karl Lagerfeld, qui est un ami à moi depuis toujours, depuis que je suis arrivé à Paris, il arrivait aussi à Paris. Ouais. Et voilà, j'admire ce mec et je trouve que c'est des créations à chaque fois absolument sublimes et qui font vivre beaucoup de gens et des métiers dont on ne parle jamais. Mais tous les métiers qui sont autour d'un défilé de mode, c'est quand même exceptionnel. Ça va de la décoration aux petites mains, enfin à tout ça, à ces tissus, à ces matières qui sont magnifiques.
Est-ce que vous arrivez encore à regarder finalement la proposition, la création, les modèles, tant le décor est époustouflant? Parce que nous, ce qu'on en voit à la télévision, le décor est tellement dingue qu'on finit par regarder le décor et en parler et ne plus regarder les créations.
Oui, mais alors ça vient du caméraman, il a qu'à cadrer à un moment donné quand il y a le décor, la vague et puis la petite cabane. Quoi. S'il regarde que le décor et qu'il ne voit pas passer le modèle, quand même, c'est bon. Je dirais rien après.
Et donc c'était où
C'est toujours au Grand Palais, Karl Lagerfeld.
Et
là,
quoi,
c'était
le décor
la plage. Alors il y avait un.
Il avait amené une plage.
Il y avait une plage. Avec l'eau, les mannequins passaient dedans, les chaussures à la main, c'était magnifique.
C'est-à-dire maillot de bain?
Non, avec des fringues normales, haute couture. Ouais.
Et justement, je me permets de lire un extrait de votre livre qui s'appelle Mes bottes de sept lieues.
Oui.
Vous venez de débarquer à Paris. De Perpignan, et vous dites, c'est un très court chapitre, mon acte fondateur, je mise toutes mes économies sur cet achat, comme dans les contes de Perrault, le chat botté, les bottes de sept lieues et le petit pousset. En les chaussant, je sais que je m'éloigne de mon enfance pour entrer dans ma vie d'adulte, je gagne en assurance, que je n'ai pas encore, d'un coup de baguette magique, j'ai l'illusion, l'ivresse d'acquérir mon indépendance. Voilà comment enfiler des bottes.
Oui,
vous avez fait entrer dans la vie adulte.
Parce que mon père voulait pas me les acheter à Perpignan, ces bottes-là. Ben, j'ai dit, tiens, comme il avait donné un peu de sous pour arriver. Direct, je suis allé, gare de Sterlitz, direct. C'est vrai, hein. J'adore.
Dany avec nous, c'est un extrait bien sûr de La nuit ne dure pas paru chez Flammarion et vous en faites des lectures musicales avec Emmanuel Seigné dans toute la France.
Non, c'est elle qui lit, hein. Ah, lecture musicale, ça fait un peu sérieux.
Vous faites musique, voilà. Non, on imagine bien que c'est un truc un peu déglingo. Dans ce cas-là, moi je fais diversion bien et je laisse la parole à Juliette Arnault qui a un conseil lecture pour nous.
Voilà. Bon, alors imaginez que quelqu'un dans la vie vous file une carte de visite et sous son nom, alors je sais pas, elle s'appelle Thérèse Leduc ou Germain Crampon, il y a son activité professionnelle et il y a écrit comptable, pirate et podologue. Eh ben vous tiquez, vous pensez même n'importe quoi lui. Eh ben pourtant, celle de Tim Willocks, l'auteur dont je vais vous parler aujourd'hui, sur sa carte de visite, le gars pourrait écrire grand maître d'arts martiaux, psychiatre et écrivain. Pour de vrai. Et par ailleurs, Tim Willocks, c'est un rouquin et il a une proposition capillaire à chanter dans Metallica. Enfin, quand Metallica avait des cheveux, bien sûr. Pour vous dire que Tim Willocks, c'est pas n'importe qui. Dans son dernier livre, qui s'appelle La mort selon Turner, son héros, Turner, comme son titre l'indique, n'est pas rouquin et blanc, il est noir. Il n'est pas écrivain, il est flic. Et comme lui dit sa vieille voisine du Cap, la ville où il vit, on dirait du Guillaume dans le texte, hein, je préviens, « Je ne comprends pas pourquoi un homme aussi intelligent que vous a choisi un travail aussi stupide. » Ça ne s'arrête jamais, rien ne change et personne ne vous remercie. Et c'est même pas bien payé. Comme psychiatre, somme toute, moins le blé, bien sûr. Pauvre donc, le flic nommé Turner, puisque pas corrompu dans un pays qu'il est violemment, l'Afrique du Sud. Il est appelé une nuit dans un township du Cap, qui s'appelle Nandjia. Alors le Cap, c'est sans doute une des plus belles villes de la planète, mais c'est aussi la capitale du meurtre en Afrique du Sud. Nombre d'homicides de 30% supérieur à celui de Ciudad Juárez au Mexique. Vous dire à peu près l'esprit. Bref, Turner arrive dans ce township en pleine nuit. Qu'est-ce qu'il trouve comme victime? Une fille, noire, jeune, pauvre, écrabouillée contre une benne à la suite d'une manœuvre avinée d'un conducteur de 4x4, ivre, blanc et riche. Alors, c'est pas un meurtre, c'est un accident. Ce qui est un crime, en revanche, c'est de foutre le camp en laissant la fille mourir misérablement de ses blessures. Ensuite, dans le roman, on quitte le Cap, qui est un terrain finalement assez connu de la littérature, et on file au Cap Nord, qui est une région septentrionale qui contient le désert du Kalahari. Sans dire en gros un lointain nulle part, la terre ancestrale des Boshiman. Hein, vous vous souvenez de... Les dieux sont tombés
oui,
sur la tête.
Oui.
Où les hommes blancs ont ensuite cultivé la pierre et le sable à force d'entêtement et d'orgueil, un lointain nulle part. Et Turner va très vite comprendre que tout cet espace altère un petit peu l'esprit et la notion de vie. Et donc la notion de mort, puisque je vous le rappelle, le livre s'appelle « La mort selon Turner ». Et là, franchement, pas d'euphémisme hein, dans le titre, puisqu'au milieu du livre, on arrive à cette phrase que je vais vous lire, à la lecture de laquelle j'ai manqué à avaler ma langue. Alors j'y vais. J'ouvre les guillemets. « Il... » au pluriel, les méchants, l'avaient laissé là, Turner, pour qu'il meure de soif, mais ils avaient laissé Rudy Britz, un gars qui est mort, avec lui, et Rudy Britz était constitué à 60% d'eau. Vous la voyez arriver, la méthode de survie ? Enterré, Mike Horn ! Reprends la broderie, John Rambo ! Meurs d'une cystite, John Wayne ! Sauf que Tim Willox, l'auteur, est aussi psychiatre. Et l'âme humaine et ses complexités, le nuancier qu'il y a entre le noir absolu et les dégradés de gris le passionnent. Alors ces méchants, notamment la puissante propriétaire du coin et mère de l'ivrogne conducteur d'un gros 4x4, Margot Leroux, et ses bras droits, ne sont pas des caricatures de méchants. Ils ne sont pas guidés exclusivement par des appétits de pouvoir ou d'argent. Ils se débattent, eux aussi. Et l'habileté de l'auteur fait que la lectrice, le lecteur se débat lui aussi avec ses convictions qui commencent à défaillir. Sauf que Turner, le flic, lui, n'est guidé que par une chose, son état de flic non corrompu. Sa conviction que la mémoire de la fille anonyme laissée pour morte mérite que l'on mette l'intégralité du Cap Nord à feu et à sang s'il le faut. Et il va falloir. Merci, bisous, merci.
Faut suivre, hein.
Juliette Arnaud.
Bravo, hein.
Dany, la nuit ne dure pas. Elle est avec nous, Dany. On va profiter de votre présence pour aborder ce dernier sujet. Il y a un album posthume d'Alain Bachung, Coming Soon. Et le grand Charles nous a à peine quitté que la presse se pose déjà la question, figurez-vous, de savoir s'il va y avoir un album posthume, puisqu'il y avait des chansons en préparation. Alors comment les écoutons-nous, ces inédits venus d'outre-tombe ?
Michael Jackson. Vivant John Lennon, vivant Pablo Picasso, vivant Henri Michaud, vivant Marcel Duchamp, vivant Francis Picabia, vivant Marguerite Duras, vivant la Calas, vivant Tarantino, pas mort, vivant
Il s'est un peu foulé quand même. Philippe Catherine. Alors, c'est étrange ces inédits quand l'artiste a disparu. Vous les appréciez différemment ? Vous allez vous précipiter sur l'album de Bachung ou pas ?
Il me semble que quand quelqu'un s'en va, ça embellit toujours la personne. Et puis, ce qui nous laisse ou ce qui reste, on l'écoute forcément différemment. Ouais. Donc, on a écouté sûrement des tubes, plein de tubes. Et puis, il y a des bijoux dans les albums aussi. Peut-être que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Moi, je suis pour que des belles chansons et des artistes comme ça nous restent un peu fidèles et sur nos étagères et de notre tête.
Mmh. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des artistes où il y a un album posthume, donc comme ils ne sont plus là pour tout checker, ouais, qui choisit la qualité du son, on fait très attention, Dany, quand on veut un peu tout, enfin, faut adhérer 100% à ce qu'on veut.
Alors après, c'est une question de confiance, C'est très compliqué, très complexe, hein, il me semble. Hein. Mais après, moi, je suis pour que ces chansons, Barbara, enfin, tous ces gens qui nous quittent et qui laissent quand même des chefs-d'œuvre de chansons. Une chanson, c'est chaque personne a un moment avec une chanson ou un souvenir, ou c'est bien.
Mm-hmm. Djoubaka, une réflexion là-dessus.
Non, mais il y a différents. En fait, de toute façon, il y a les ayants droit moraux et autres qui sont là pour surveiller ce qui se passe, hein, quand même. Pour Bachung, il demandait souvent à des auteurs, en fait, de lui écrire des chansons. Et puis il allait jusqu'au, il avait un processus d'enregistrement qui faisait qu'il allait jusqu'au bout en fait du processus d'enregistrement, ou alors il avait des maquettes. Et ce qu'on va entendre là, c'est des chansons sur lesquelles il a vraiment travaillé, il s'est vraiment investi, mais qui aurait pu se retrouver ailleurs. En ce moment, on vous passe Immortel de Dominica, ouais, mais ouais, par Bachung, qui est très très belle aussi.
C'est quoi les grands je crois qu'on appelle ça l'album blanc quand ça sort après, ceux qui ont marqué l'histoire et on se dit ah oui, c'est vrai que celle-là, ça valait vraiment la peine. Là,
celui qui a vraiment marqué l'histoire à ce moment-là, c'est Elvis, quoi, parce qu'on on a ressorti 150 albums depuis sa mort, donc c'est impossible même de tous les avoir quasiment. Et sur le dernier album, on a même sa mère qui chante. Donc ça, pour les fans, c'est un truc incroyable. Donc voilà, les albums de postérité sont faits aussi pour les gens qui ont une relation presque passionnelle aussi avec les artistes.
Vous avez une belle voix aussi. Vous deux, vous feriez un duo formidable. Chewbacca, Dany. Dany, est-ce qu'on peut vous demander une des cordes à votre arc? C'est la comédie, l'acting.
Vous êtes formidable dans le film d'Alex Lutz. On en parlait, Guy.
Ah, mais le film est formidable.
Alors, à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité.
D'accord.
Un rôle. Vous êtes agent immobilière parce qu'en ce moment...
Oh, ben ça tombe bien.
Ah ben voilà. Le Parti Socialiste qui devait déménager. Le nouveau bâtiment n'est pas encore prêt. L'ancien, ils les foutent dehors. Donc ils sont coincés. Ils vont devoir trouver de quoi se faire héberger. Olivier Faure, Guillaume Meurice et Laurence Rossignol, Charline Vanhoenacker, cherchent donc une petite solution. Et c'est évidemment Stéphane Plaza qui se lance pour leur trouver un appart. Bonjour les amis.
Bonjour Stéphane.
Alors, je vous présente Marie-Claude, notre agent immobilier spécialisé dans les lieux de travail.
Ah bah, il nous faudrait plutôt un spécialiste des lieux de repos, hein, vu ce qu'on fout depuis 2 ans.
Olivier.
Alors j'ai trouvé pour vous le siège parfait.
Ah, c'est un fauteuil roulant?
Olivier, arrête.
Bon, je vous y emmène, c'est à 2 pâtés de maison. Allez, on se met en marche.
Non,
pas en marche.
Ah ben pourquoi non? Ah, dépêchez-vous, c'est là-bas, dans l'impasse Georges Marchais.
Ah, là, tu m'étonnes, évidemment.
Le voici, bon, la façade est un peu délabrée.
Oh, bon, ne vous en faites pas les ruines, on connaît bien.
Olivier, hein.
Oui, donc c'est au rez-de-chaussée.
Parfait, comme ça ils pourront pas tomber plus bas.
Il peut faire des vannes.
Il n'a pas de responsabilité, lui.
Non, moi non plus, Romain.
Le bureau est composé d'une grande salle de réunion.
Ouf, oui, vous savez...
Quoi?
Bah là, Olivier a raison, hein. Je sais pas si on va vraiment avoir besoin d'une grande salle de réunion. Hein, c'est...
Oui, mais vous êtes combien là au PS?
12?
Non, Laurence, on n'est plus que 11 parce qu'il y a Emmanuel Morel là qui vient de partir chez Mélenchon.
Bon, bah alors on est 11.
Attends, je crois que Luc Carvuna, c'est pas loin de filer.
Bon, bah un bureau pour une petite dizaine de personnes alors.
Il n'y a pas un bruit là? C'est quoi le bruit?
Ah, oh, c'est rien, c'est la chaudière qui s'est mise en marche.
Non, pas en marche.
Bon, alors si cet appartement ne vous plaît pas, je peux vous proposer une colocation, ça vous irait?
Ça c'est bien, oui, ça nous fera du bien de voir du monde en plus. Donc,
Ou alors c'est un grand coworking avec un groupe qui n'a pas plus les moyens de payer son loyer.
Ah bah oui, carrément, ça c'est génial, oui.
En revanche, il faut montrer patte blanche avant d'arriver.
Oui, bah on a un bon dossier, hein, ça devrait le faire, c'est où?
Alors c'est à Nanterre. Avec le Rassemblement National.
Ah non, Olivier, on n'est quand même pas tombé aussi bas. Hein.
Bon, ben les amis, écoutez, mais vous pouvez pas tout refuser. Il faut faire des concessions. Bon, le prochain bureau, vous l'acceptez ou on arrête l'émission?
Bon, alors, je vous ai dégoté un siège tout neuf, jamais utilisé.
Ah, ben très bien, ça se trouve où?
Ben c'est à Ivry, c'est le bureau d'Emmanuel Valls.
Et nous allons maintenant établir un duplex avec l'au-delà, Alex.
Et oui, et pas avec n'importe qui, avec le grand, l'unique, Jacques Martin.
Bonjour Jacques Martin.
Bonjour madame.
Tout se passe bien pour vous là-haut?
Tu sais que c'est long, hein?
Ouais, je m'en doute, ouais.
Ta maman, c'est la jeune fille, là?
Là, non, c'est Charline.
Et d'où tu viens, alors?
De Suisse.
Tu habites dans un pays où on fait du chocolat?
Oui.
Est-ce que tu en manges beaucoup?
Oui.
Qu'est-ce que tu aimes le mieux?
Les morts.
Oh, ben dis donc.
Ouais, non, mais Jacques Martin, j'ai pas 5 ans. Est-ce qu'on pourrait plutôt parler d'actualité entre adultes?
N'essaye pas de me rouler, je te connais.
Non, mais j'essaie pas de vous rouler, là, c'est bon.
Eh ben alors, chante.
Non, je veux pas chanter. En même temps, c'est Dalida, j'aime bien Dalida. D'accord. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi.
Non, là, c'est ridicule. On arrête. Ça suffit.
Non.
Non, Jacques Martin, ça suffit. Sérieux.
Tu veux être chanteuse quand tu serais grand?
Non. Non. J'aimerais juste que cette putain de chronique tienne la route.
Alors, tu respires bien. Deux fois.
T'as jamais sucé ton pouce?
Non. Est-ce qu'on peut parler de Manu Macron maintenant, s'il vous
non.
plaît?
Tu te mets là. Tu es toute seule. Et tu écoutes Claude Debussy.
Vas-y. Non, mais je veux pas écouter Claude Debussy. Je veux pas écouter Claude Debussy. Jacques Martin. Non, si c'est comme ça, je lâche l'antenne et je vous laisse avec Alex Vizorek.
Quand tu veux, vas-y.
Ok, bah, elle demande ce que vous voulez.
Ah hein. Mais moi, j'adore.
Est-ce que tu suces ton pouce, Alexandre?
Oui, je l'ai fait pendant un petit temps, mais ça va mieux maintenant.
Tu viens d'où?
De Belgique.
Non, de Bruxelles.
Ah, pardon, de Bruxelles.
Tu viens de Bruxelles oui. Une fois.
Bah oui, alors ouais. Ça non.
Bon, vous savez ce qu'il va vous demander maintenant. Hein.
Tu nous chantes la chanson que tu voudras.
Bah, chantez-lui Michel Thor.
Emmène-moi danser ce soir.
Vas-y, Alexandre. 1, 2, 3.
Emmène-moi danser ce soir. Le temps ensemble, dans le noir.
Je n'ai pas les paroles.
Qui demande, moi, Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis toujours resté là.
Et nous allons donner une excellente
oui,
note à ce jeune homme qui a fait des prouesses et en mesure. Si merci, mesdemoiselles, vous êtes adorables.
Ouais, merci, Jacques Martin, mais je ne partais pas tout de suite. J'aimerais juste qu'on parle encore un tout petit peu.
Eh bien, mes enfants, on va y aller.
You never need your American, you never take. What you say seriously? You're on the bed, you're on the ledge of things you've got in mind. And when you wake, it's all in. Said you'd do anything you made, excuses for your mind, objective, goal, and collective. Don't you dare forget it. Don't you forget it. Don't you forget it. In your
c'était Cat Power, In Your Face.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Voilà, la fin du duplex avec l'au-delà signe la mi-temps de cette émission. Ça veut dire qu'on change de partenaire.
Exactement.
Et on invite dans l'open space...
Le concurrent, Laurent Ruquier.
Ah oui. Et bienvenue sur cette antenne qui fut la vôtre il y a 19 ans, rien à cirer déjà.
Eh oui.
Ah, dites donc.
Eh oui, je n'ai pas vu ces années passer. Et ça a bien changé ici d'ailleurs.
On vous reçoit aujourd'hui pour une pièce de théâtre, Pourvu qu'il soit heureux, une comédie de votre plume, Laurent Ruquier, avec Francis Huster, Fanny Cotenson et le jeune Louis Le Barazère, on dit.
Le Balazère.
Ah,
le Barazère, oui,
le
pardon.
Barazère,
c'est moi
fait.
Qui me trompe. Il faut dire qu'il débute. Hein.
C'est vrai. Qui se joue au Théâtre Antoine actuellement, du mardi au samedi à 21h, et puis le samedi et dimanche à 16h. Il s'agit de Maxime et Claudine, qui sont en vacances, tranquillou, sont dans leur chambre d'hôtel. Maxime achète la presse, il lit compulsivement la presse, il la lise et puis il tombe sur un magazine People qui oute leur fils en couverture. Il découvre qu'il est homosexuel et en couple avec un acteur célèbre qui a 30 ans de plus. La pièce commence avec comment réagissent les deux parents. Et Laurent Ruquier, dans le texte, vous répondez doublement à cette question. Vous jouez un premier acte, puis le rejouez de façon différente. Il y en a un qui est plus tolérant de l'autre que l'autre, et dans le deuxième acte, c'est le contraire. Pourquoi avoir choisi de raconter cela doublement? Il n'y avait pas qu'une seule voie possible.
Parce que c'est en fait, c'est comme ça moi que j'ai imaginé et que j'ai écrit la pièce, c'est ce qui se passe dans la tête du jeune homme. En fait, voilà, quand on décide de parler à ses parents, ou alors quand on a été outé, mais généralement ça se passe pas comme ça, c'est plutôt le coming out, on se dit mais comment ils vont réagir ? Et on imagine les différentes hypothèses des réactions du père et de la mère. Parfois on se trompe, c'est pas forcément comme on a prévu. Et là voilà, je voulais montrer deux hypothèses possibles, il y en avait d'autres d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait symétrique les deux actes, si la mère est moins tolérante dans le deuxième, c'est pas d'ailleurs qu'elle soit pas tolérante dans le deuxième acte, c'est qu'elle culpabilise, elle n'a pas les mêmes, on va dire, accents homophobes que peut avoir le père dans la première partie. Donc c'est pas, on va dire, deux actes symétriques, mais c'est en tout cas deux hypothèses possibles qu'imagine le garçon jusqu'à ce qu'on passe à la réalité dans le troisième acte.
Et que les parents aillent le voir chez lui. Alors, ce premier acte en deux parties, on peut dire, ou ces deux premiers actes, sont vraiment sur le ton de la comédie, parce que eux le vivent d'une façon, l'un ou l'autre, de façon dramatique, l'autre beaucoup moins, donc il y a une tension qui fait qu'on est dans la comédie. Et la deuxième partie est un peu plus tragique. Moi, j'ai senti un peu comme un auteur un peu en colère sur peut-être l'air du temps, la société, le côté peut-être parfois un peu réactionnaire. On sent un peu de colère dans le
quand
deuxième.
On écrit sur ce thème, on a envie évidemment de dire ce qu'on pense et puis essayer de faire réfléchir le spectateur. Moi, j'aime bien faire rire évidemment le public, ça va de soi, mais j'aime aussi qu'on sorte de la pièce en ayant retenu quelque chose, pas forcément des leçons, mais en tout cas de quoi discuter et pouvoir réfléchir ensemble. Donc si la pièce peut évidemment faire un pas à quelques personnes dans le public vers la tolérance, tant mieux, et oui, c'est le but. Donc évidemment, je me suis servi beaucoup de ce que j'ai pu vivre moi ou des gens dans mon entourage, et oui, j'avais envie de temps en temps de démonter les clichés. Je me sers beaucoup des clichés, mais pas pour faire rire, je m'en sers pour les démonter évidemment.
Moi, j'avais vu La Gauche, La Droite avec Laspalès et Francis Huster, et vous prouviez que on pouvait être ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, parce que c'était votre côté observateur de la vie politique. Ici, c'est peut-être une situation que vous avez connue de plus près. Comment vous pouvez arriver à en ressortir et à essayer justement de...
Parce que pareil, au fond, tout n'est pas si simple. Voilà, dans la vie, on est plein de paradoxes. Moi, je suis homosexuel, tout le monde le sait, parce qu'ils savent pas, je leur dis, fais mon communiqué sur France Inter cet après-midi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je suis homo que j'ai le sentiment d'appartenir à une communauté, mais en même temps on m'y renvoie assez souvent, et donc à la fois j'ai envie de défendre la tolérance vis-à-vis des homosexuels, mais j'ai envie aussi, c'est aussi ça la pièce, de me mettre à la place des parents pour qui c'est pas toujours facile d'apprendre ce genre de choses, même si ça devrait pas être le cas, c'est le cas, c'est un constat, c'est pas simple encore aujourd'hui en 2018 en France, mais encore pire peut-être êtes ailleurs. Donc c'est pas si simple que ça. Voilà ce que j'ai voulu. Donc j'ai essayé de me mettre dans les deux camps, non pas à droite à gauche, mais aussi bien chez les parents que chez le fils.
Et un mot sur le choix des comédiens, donc Francis Huster, Fanny Cottençon et le jeune comédien Louis Le Barrazer. Vous avez écrit en sachant qui jouerait. Ce sont un peu vos comédiens fétiches. Comment ça se passe?
Non. Franchement, là, quand j'ai écrit cette pièce, je savais pas vraiment qui allait encore la jouer. Mais Francis Huster est devenu effectivement quasiment un habitué de la maison parce qu'il a joué ma pièce précédente et puis celle-ci il l'a lu, il l'a aimé. On a choisi Fanny Cottençon dans un deuxième temps. Et quant au jeune garçon, ça a été plus compliqué parce que il fallait prendre quelqu'un qui soit vraiment jeune. Il a 23 ans dans la pièce. D'ailleurs, il a
l'âge de son personnage.
Il a l'âge du rôle, exactement. Et là, on a auditionné beaucoup de jeunes acteurs. Il n'y en a aucun vraiment qui correspondait. Et puis, c'est Stéphanie Bataille, la directrice déléguée du Théâtre Antoine, qui nous a dit « Mais il y a quelqu'un qui vend les programmes dans la salle et il est dans une école de théâtre. Vous devriez l'essayer. » Donc, on l'a fait monter sur scène. Et finalement, c'est lui qui a gagné.
En traversant la scène, il a trouvé du travail. C'est formidable.
Ah oui, c'est une belle histoire.
C'est la pièce de Laurent Ruquier, « Pourvu qu'il soit heureux », mise en scène Steve Suissa. Et c'est au Théâtre Antoine. Et on va profiter de votre présence, Laurent Ruquier, pour traiter de ce premier sujet. Vous savez qu'on change le monde dans cette émission. Premier
mais
sujet.
Mais il n'écoute pas, parce qu'il a pas temps. Il s'est pas rendu compte qu'il était vraiment...
Le gars est corporate, c'est toujours la même émission.
Feignant, pognon, costard, foutre le bordel et t'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot.
Macron.
Oui, il clash les Français, Macron. Mais pas tous les Français, attention. Il clash que les Gaulois réfractaires en t-shirt, essentiellement. C'est ce qu'on appelle le parler vrai. Et d'ailleurs, il a remis ça ce matin. Écoutez.
Mais j'en ai rien à foutre des chômeurs, moi. vous me dégoûtez tous.
Les postiers, les informaticiens, les professeurs, les coiffeurs, les péagistes, les secrétaires, les fleuristes, les garagistes,
les vétérinaires, les esthéticiennes, les électriciens, les éboueurs, les plombiers, les dentistes, les barmans, les jardiniers, les cuisiniers, hein, les agriculteurs, les intermittents, les médecins, les chauffeurs de bus, les journalistes, les architectes, les gardiens de phare, les femmes au foyer, les maraîchers, les notaires, les tuches.
Vous préférez la langue de bois, peut-être? C'est un extrait des Tuches 3, car nous avons des références culturelles sur cette antenne. Laurent Ruquier, il y a notamment une page débat dans La Croix aujourd'hui. Je suis sûre que ça vous a pas échappé, vous qui lisez toute la presse.
Évidemment.
Évidemment, pourquoi Emmanuel Macron multiplie-t-il les petites phrases? Et on se demandait, vous qui lisez beaucoup la presse et qui adorez aussi la caricature, le dessin de presse, on se demandait, est-ce que Macron, dans ces moments-là, il ne se caricature pas lui-même?
Non, moi je crois qu'au fond, il est plutôt sincère. Vraiment, je pense qu'il dit ce qu'il pense. Je pense pas, quand on dit que c'est calculé, que ça a été réfléchi, la petite phrase à l'avance, quand il répond, par exemple, il faut traverser la rue, et je pense pas qu'il est le gamin, enfin, c'est un gamin, je crois, je pense pas qu'il ait été... Voilà, oui, il a 25 ans. Oui, c'est un gamin, 25 ans. Pour le vieux, j'étais ici il y a 20 ans, monsieur. J'ai changé de rue pour trouver un travail. Non, mais quand quelqu'un, un jeune, on va dire un jeune, quand un jeune, lui, l'interpelle à propos de... Voilà, son manque de travail, il peut pas savoir. Il c'est pas préparé. Ou alors, vraiment, je peux pas croire que l'Élysée entraîne des figurants qui vont interpeller le président. Et voilà, non,
mais quand il dit Gaulois réfractaire, c'est dans un discours.
Alors là, en revanche, là, je pense que c'est préparé.
Cynique, feignant, extrême.
Non, c'est des choses qu'il a. Voilà, mais c'est quand même des choses qu'il pense.
Ah, bah, c'est sûr. Ouais,
voilà. Donc, mais en même temps, s'il les dit, c'est parce qu'il sait aussi que ça plaît à une partie des Français. Parce qu'il y a une partie des Français qui pensent comme lui, que si on traverse la rue, on trouve du travail. D'ailleurs, c'est pas totalement faux, mais on trouve pas forcément le travail qu'on a envie de faire. Oui, et ça, c'est ça. Le problème.
C'était ça. Est-ce que les journalistes ne devraient pas laisser ce volet-là aux satiristes, aux humoristes? Parce qu'on en parle énormément, et finalement, ça peut éventuellement prendre du temps disponible de journal plutôt que de parler de sujets de fond. Est-ce que ça devrait plutôt être la cam des dessinateurs, des humoristes, etc.?
Alors, si on commençait à enlever ce qui fait le buzz dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, ce serait un boulot énorme pour les vrais journalistes, parce qu'il faudrait remplir tous les journaux. Non, c'est pas possible. Évidemment, ça amuse, ce genre de petites phrases. Ça a toujours été. Ouais. C'est pas nouveau non plus. On se souvient, même De Gaulle a eu ces petites phrases. Donc, les Français sont dévots et tout ça, ça a toujours existé. Aujourd'hui, c'est simplement que tout prend des proportions bien plus grandes à cause justement du buzz, des réseaux. Bah, voilà, une phrase comme ça, c'est je sais pas combien de clics pour chaque organe de presse qui ne vend plus de papier, mais qui en revanche cherche à attirer des followers.
Et ça permet de se faire entendre, c'est l'objet du débat dans La Croix, de dire la parole politique, s'il n'y a pas des saillies.
Oui, alors La Croix, je suis pas sûr qu'il va y faire le buzz. Mais...
Et si c'est le cas, c'est pas une grande réussite.
Il n'y a pas eu de scoop sur Jésus depuis très très longtemps. Quoi.
Laurent Ruquier est avec nous et avec nous aussi. Constance. Constoudette, allez-y.
Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 18 septembre et c'est la journée mondiale du contrôle de l'eau. Le contrôle de l'eau? Mais pourquoi faut-il contrôler l'eau? Elle roule trop vite et ne met pas sa ceinture? Non. L'eau n'est pas un danger au volant. Elle est même recommandée par la sécurité routière. Mais l'eau doit être nettoyée et contrôlée sans relâche, car l'homme est une sorte de grosse gourde composée à 70% d'eau et à 30% de glyphosate. Il doit donc s'hydrater toute la journée. L'eau, donc, en plus d'être mouillée, doit être propre. Alors l'homme doit la nettoyer. Nettoyer l'eau? C'est absurde, vous allez me dire. Et pourquoi pas faire sécher du vent non plus? Arrêtons de plaisanter. Et prenons ce problème au sérieux. Sans le nettoyage de l'eau, nous aurions dans notre bouche, à chaque gorgée, un peu de sperme de notre voisin du dessus, un peu de merde de la dame qui habite en face, les petits morceaux d'embryons mal accrochés de la concierge, ou encore des glaires de première règle abondante de l'adolescente de l'étage du dessous. En un mot, sans le nettoyage de l'eau, s'hydrater deviendrait un vrai repas complet et les fast-foods feraient faillite. La Terre n'a pas d'imagination. Heureusement que l'homme est là pour la réinventer. Car même si la Terre porte le nom de planète bleue, c'est bien l'homme qui a inventé le petit cube qui rend l'eau vraiment bleue dans les water. Et la grandeur de l'homme permet de faire ce grand tri sur la planète. Parce que si les poissons sont incapables de construire avec leurs nageoires des stations de nettoyage pour purifier leur eau, méritent-ils vraiment de vivre? À quoi la pieuvre sert avec tous ses bras si elle est trop bête pour réussir à bâtir une station d'épuration? À rien. Alors oui, le hurlement de l'eau prisonnière de la bouteille en plastique peut paraître déchirant, mais la mission de l'homme est bien plus grande que celle de la truite. L'homme, lui, a inventé le cachanus pour chien, quand même.
Merci, Constance.
Merci à vous.
Allez, abordons cet autre sujet, car nous ne sommes pas égaux devant l'accès à l'art et à la culture. Alors, les ministères de la culture et de l'éducation ont uni leurs efforts pour que les enfants puissent se familiariser avec le théâtre, la musique, les musées. Par exemple, tiens, cette idée de Jean-Michel Blanquer de réintroduire la chorale à l'école, ça fait partie de ce plan pour réduire le fossé culturel. Explication.
Toi, tu connais sûrement une chanson, non?
Ben ouais, mais ça va pas vous plaire.
Bah, essaye toujours.
Ah, la claire branlette, j'ai sorti mon poireau. Tu les ginettes sans les fleurs de bobo. Il y a longtemps que je t'encule,
ça va?
Je vous l'avais bien dit.
Pas mal. C'est du travail, mais tu as déjà une bonne voix de baryton.
Une voix de quoi?
De baryton, c'est pas une insulte. C'est quand on chante avec une voix grave. On met tout au fond avec les basses.
Gérard Jugnot dans Les Choristes de Christophe Baratier. Donc l'équivalent de 2 heures par semaine devront désormais être consacrées à des activités artistiques, chorale, lecture, éloquence, théâtre. L'idée est de réduire cette fracture culturelle qu'on connaît au collège et qui s'aggrave au lycée. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'accès à la culture, la démocratisation, etc. Ici, avec ce projet, l'école, est-ce que l'école, elle peut aider à régler ces inégalités?
Elle peut,
quand
elle
on
n'est
pas dans les grandes villes.
On voit bien dans les parcours de la plupart des artistes, parce que vous, comme moi, j'imagine quand vous recevez des artistes, vous voyez leur CV, leur bio. La plupart du temps, c'est un professeur qui a été le déclencheur ou le déclic d'une carrière. Et particulièrement au théâtre, d'ailleurs. C'est parce qu'on a fait du théâtre à l'école, parce qu'on a eu une prof de musique qui a été... Bon, ça c'est plus rare, hein, parce que la flûte à bec, ça déclenche pas forcément des vocations. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est souvent à l'école que ça se passe. En tout cas pour les catégories sociales qui sont, on va dire, les plus modestes.
Et vous, Laurent Ruquier, vos premiers contacts...
Le théâtre.
Ah,
un prof de théâtre. Ah oui. Un prof de théâtre qui m'a fait faire du théâtre à l'école. Et pourtant, j'étais vraiment pas comédien, mais quand même, ça m'a sorti, ça m'a permis de, j'étais très inhibé, très timide, mm-hmm. voilà, ça m'a transformé.
Vous dites les classes sociales, mais c'est pas entièrement vrai, parce que des gens très aisés où la culture est pas très présente dans la famille et l'école où le prof de français peut donner goût à ça, et inversement, des milieux plus défavorisés où ça parle beaucoup culture.
Ça dépend quel milieu défavorisé, mais ouais. quand même, il faut avoir les moyens pour offrir.
Aller au théâtre,
pour,
oui.
C'est pas pour aller au théâtre, même pour offrir des cours. Oui, ouais. mais même pour aller au théâtre. Ouais, moi, je viens d'un milieu ouvrier où, je veux dire, quand on allait au cinéma, c'était un événement dans l'année. Je peux vous dire, pendant des années, j'allais au cinéma le 31 décembre. Voilà, parce que c'était la sortie du nouvel an. J'ai vu tous les Disney, les Charlots à l'époque. Non, mais c'est vrai, ouais. parce que mes parents m'emmenaient voir des films populaires. Le 31 décembre, c'est la seule fois dans l'année où je pouvais aller au cinéma. Je suis jamais allé au théâtre avant d'avoir 18 ou 20 ans. Jamais. Je me souviens très bien, par exemple, dans le journal Paris-Normandie, qui était le journal de ma région, un jour, j'avais vu une annonce pour Barbara qui passait. Il y avait un cinéma qui s'appelait le Gaumont Olympia au Havre, et Barbara passait, puis j'avais envie d'aller voir. Je sais pas pourquoi ça m'intriguait, cette femme, voilà, habillée en noir. Et mes parents, c'est pas pour nous. La phrase, c'est pas pour nous. Mais ça existe encore aujourd'hui.
Et aujourd'hui, on rattrape tant qu'on peut tout ce
fossé. C'est à l'école, effectivement. Ouais. Je pense que au moins, effectivement, favoriser les activités extrascolaires, c'est ce qu'il y a de mieux.
Et ben voilà, un bon point pour le gouvernement. On a trouvé.
Allez.
Vous voulez que je sois ministre de l'éducation à la place de Monsieur Blanquer
ou de la culture.
La culture. Ah, ça y est.
Ou les deux.
Je vais laisser la place à Jean-Marc Dumonté, quand même.
Arrêtez de lui savonner la planche. Parce
que... Vous savez, François de Rugy est à l'écologie. On peut tout faire. C'est bon. Laurent Ruquier. Est-ce que ça vous dirait de jouer avec nous? Nous, on adorerait.
On fait un sketch avec l'invité. On lui propose un rôle qu'il découvre. Vous avez le rôle de Laurent Ruquier.
C'est moi,
ouais. Vous avez le rôle de Laurent Ruquier, ça va. On s'est dit, qu'est-ce qui se passerait dans On n'est pas couché si, en fait, les chroniqueurs aimaient tout de suite les produits culturels? Vous seriez bien dans la merde. Guillaume Meurice et Yann Moix.
Ça arrive quand même, je vous rassure, ça arrive.
Ouais, mais peut-être pas à ce point-là. Charline Vanhoenacker et Christine Angot.
Oui.
On se rend sur le plateau.
Démarre. Hein.
Oui.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans On n'est pas couché.
Oh, génial!
Ah, il fait très... Je suis tellement pas habitué à lire un texte dans l'émission que ça me... Il est très chaud ce soir. Bonjour Yann Moix. Les invités vont devoir se méfier.
Non, pas du tout. J'ai aimé tout le monde ce soir. Que de belles propositions culturelles.
Ah bon? C'est surprenant. Mais dans ce cas-là, alors on est en droit de s'inquiéter, car Christine Angot, heureusement, est avec nous.
S'inquiéter? Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'on vous connaît, Christine.
Ah non, moi je suis radieuse. Je viens d'écrire 10 pages de mon prochain roman.
Ah ben voilà une bonne nouvelle.
Mais cette fois, les gens du masque et la plume vont adorer.
Bon, allons-y. Notre premier invité dans le fauteuil sera Kenji Girac.
Ah, Kenji, génial, je kiffe grave.
Pardon ?
Je suis un fou de toutes les chansons de Kenji.
Ah, moi aussi. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse.
Oui, c'est bien écrit, hein. C'est rare, d'ailleurs, les rimes en ouze.
Oui, les rimes partouze.
Non, Laurent, non.
Pardon, mais aujourd'hui, on ne reçoit pas Kenji le chanteur, mais Kenji le peintre. Et là, je vous attends sur ce sujet. Kenji Girac, peintre.
Bah, écoutez, c'est fantastique. J'ai pas d'autres mots, c'est fantastique.
C'est un peu exagéré quand même.
Bah, moi je suis surpris en tout cas que vous aimez. Quoi.
Moi aussi je suis surpris, Christine.
Pour moi, Kenji, je vous le dis, c'est Van Gogh en mieux. Voilà, c'est formidable. Mais
vous n'allez quand même pas aller à l'exposition, ce ne sont que des croûtes.
Non, Laurent, vous êtes très très dur. Moi j'ai été totalement bouleversé par le trait de pinceau de Kenji.
Et d'ailleurs, moi j'ai une question. Est-ce que par rapport au fait, et c'est même pas dans l'entièreté, hein, je pose qu'ils font regarder vraiment en entier tout votre travail.
Quoi. La question là.
Oui, j'y viens. Dans une optique quantique.
Oh, mais arrêtez, c'est insupportable. Portable.
Calmez-vous, Catherine.
Mais j'en peux plus de cette émission, moi.
Mais non, elle est très nerveuse, Madame Barma.
Mais c'est insupportable, tout le monde sait. J'en peux plus. On peut pas faire de la bonne télé sans cloche.
Calmez-vous, Catherine. On va vous donner les petites pilules.
Oui, mais vous me virez le Picasso maniche, le manouche, là, pour l'invité suivant.
Très bien. Et là, on a du lourd, car Gérard Collomb vient nous parler de son spectacle de ventriloquie.
C'est formidable. Génial.
Lui, c'est un petit peu la mascotte de l'émission, on vous le ramène tous les jours d'ailleurs.
Ben oui, il chante beaucoup, et là il chantait devant beaucoup de gens. Nous étions, rappelez-vous, à la fête de l'Huma, et quand il est arrivé sur scène, Frédéric Fromet triomphe.
Eh bien, sur une musique d'Elmer Footbeat et un texte d'Emmanuel Macron, Benalla.
Moi, ce que j'aime chez Benalla, c'est qu'il est plus fort que Booba. Il se bat pas comme une femmelette à coups de flacon d'eau de toilette. Ouh, moi, ce que j'aime chez Benalla, c'est qu'il est plus fort que le Sénat. Sauf qu'il pourrait galérer pour ceinturer le gros Larcher. Ouh, Benalla la 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 la. Oh, frappe-moi, Benalla la 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 la. Oui, cogne-moi, Benalla la 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 la. Oh, fracasse-moi, Benalla la 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 la. Oui, corrige-moi. C'est un peu une chanson sadomaso, mais comme la plupart des cocos. Moi, ce que j'aime chez Benalla et ses petites lunettes au JT, c'est qu'il est pas vraiment de là-bas. Dans son costume de premier de cordée, je suis pas là pour le défendre, mais il se prénomme Alexandre et pas Mustapha. Oh, Benalla. Et dans les points de Benalla, oui, dans les points de Benalla, oh, 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 il y a toujours de la place pour un gauchiste qu'on tabasse. Ouh, ouh, Benalla la 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 la. Oh, tamponne-moi, Benalla la 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 la. Oui, percute-moi, Benalla la 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 la. Oh, attache-moi, Benalla la 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 la. Oui, faites-moi. Moi, ce que j'aime chez Benalla, c'est qu'à la fête de l'UMA, il nous dégagerait tout ça, les t-shirts chez Guevara. Ouh, Benalla la 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 la. Ouh, bouscule-moi, Benalla la 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 la. Oui, dérouille-moi, Benalla la la. Flagelle-moi, Benalla la 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 la. Oui, cravache-moi, mais tu ferais mieux de coller des mandales au Front National.
C'est sur ces quelques notes en public qu'on va ranger l'émission au garage jusqu'à lundi, où nous serons le 31 décembre. Alors, pendant que vous vous mettez sur le vôtre, le 31, pour la soirée du réveillon, on vous proposera une rediffusion du tribunal récidive, le tribunal des flagrants délires de la fameuse soirée Pierre Desproges.
Eh ben, on s'était bien amusé et on espère que vous vous amuserez avec nous.
À lundi!